Il est 17h sur Art District. Bienvenue dans Jazz Story. Luxi Bright, les ateliers du jazz du Centre des Musiques Didier Lockwood. Sur 5 épisodes, pendant 5 semaines, immersion sonore auprès des professeurs et des élèves du Centre des Musiques Didier Lockwood, Adam-Marie Lellis. C'est une école fondée il y a 18 ans par le virtuose du violon jazz pour transmettre aux jeunes musiciens en devenir l'amour de la musique en se découvrant soi-même. Didier Lockwood le dit lui-même, le jazz c'est le corps, c'est une danse intérieure. Suivez les pas et le micro de Luxi Bright pour découvrir comment on apprend le jazz aujourd'hui, quels sont les jeunes qui choisissent cette voie, quelles sont leurs motivations. Une école de jazz qui prône une pédagogie basée sur l'épanouissement personnel et l'harmonie entre les profs et les élèves. Jour 4, atelier saxophone et atelier basse et contrebasse.
Stéphane Guillaume, toi tu es le professeur principal de...
Voilà, je m'occupe des saxophonistes, des flûtistes, ouais. Des clarinettistes quand il n'y en a pas cette année. Et puis je m'occupe aussi du big band, voilà, la grosse formation de l'école. Je suis intervenant en cours d'arrangement. Voilà, je fais un cours d'arrangement une fois par mois, enfin c'est un cours un peu supplémentaire qui est lié vraiment à la musique de big band, puisque je m'occupe du big band juste après.
D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es à l'école?
Alors, moi je suis intervenant depuis 17 ans, depuis que l'école existe.
Depuis le tout début.
Donc j'ai commencé, j'étais plus jeune que mes étudiants, que j'étais prof ici. Et je suis prof permanent depuis, ça doit être la 6e année ou la 5e, je ne sais plus exactement.
Maxime, donc tu es en deuxième année, c'est ça?
En deuxième année de licence, oui, c'est ça.
Ça veut dire qu'il te restera un an après ça?
Voilà, encore une année et demie là, maintenant. Et puis, au bout de cette année, j'aurai mon diplôme de licence, qui marche aussi avec la fac d'Evry. Diplôme du CMDL, quoi, fin de cursus. Quoi.
D'accord. Ouais. Voilà. Tu avais une formation classique avant ça, en conservatoire?
Oui, alors j'ai appris à jouer du saxophone à Évreux. Bon, là, je suis originaire d'Évreux.
Ouais.
Et j'ai poursuivi mon cursus à Versailles. Bah, en entrant en CMDL, j'ai arrêté classique.
Est-ce que tu avais déjà touché au jazz avant?
Oui, un petit peu. J'en ai fait pendant que j'étais à Versailles aussi, un petit peu. J'ai dû en faire 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Mais j'avais commencé en parallèle les deux, mais ça faisait beaucoup de boulot.
Ouais. Et t'as trouvé comment cette transition? Est-ce que tu trouves que c'est complémentaire en fait, les deux façons que t'as eu d'étudier, ou est-ce qu'il a fallu vraiment passer un peu un cap, une barrière, réapprendre des choses?
Ah non, c'est très complémentaire. Moi, ça m'a servi à la fois dans le classique et à la fois dans le jazz d'avoir les deux finalement, parce que je pourrais pas vous citer d'exemple comme ça, mais c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit aussi sur pas mal de choses dans les deux matières, on va dire ça comme ça. C'est très complémentaire, et puis finalement cette transition de passer du classique aux deux puis plus qu'au jazz s'est fait naturellement, parce que voilà, je ressentais l'envie d'aller voir autre chose finalement que le classique, parce que le saxophone classique, bon, il y a plein de choses, hein, c'est super, mais on est assez limité.
Ouais.
Le fait que ça soit un instrument tardif, ça s'est fait naturellement.
Ok.
C'est pas mal, hein, ça marche bien. Hein.
Mais
t'as les oreilles qui fonctionnent pas mal. Il faut dans cet exercice-là, pense vraiment, quand t'as ta note repère, tu pars sur 2-3 notes repères, c'est une phrase qui va te mener au bout, pas des circonvolutions.
Ouais.
Tu vas vraiment essayer de clarifier ta pensée de manière à ce que t'aies un seul élan. C'est vraiment qu'une seule courbe. Les triades, ça va? Fais-moi la triade en majeur, en sol. Triade en sol, en majeur. En sol pour toi. En sol 7.
Je fais un gros pilier sur le blues, donc tout ce qui est vraiment l'harmonie, enfin l'harmonie, le sentiment du blues, c'est-à-dire qu'on parle d'harmonie, mais c'est vraiment le sentiment du blues, mm-hmm. avec ce que, bon, le vocabulaire du blues, avec sa gamme pentatonique,
ouais.
et puis les dérivés un petit peu tonales de ce qu'on peut
ouais.
faire sur le blues. Et ensuite, je fais un gros pavé sur les standards de Broadway pour leur parler exclusivement et uniquement du système tonal. Plutôt que de prendre tout le mode à plat comme ça et de leur dire « vous jouez toutes les notes », c'est de retirer des notes au mode, histoire de rentrer vraiment sur les 4, les 3, 5 notes qui, sont,
ouais.
qui font vraiment sonner le mode au plus profond.
Ouais, d'accord.
Et donc les triades, c'est ce qui est le plus facile parce que c'est d'abord des choses qui manipulent assez aisément au niveau technique,
ouais.
normalement, surtout en sortant de la tonalité verticale.
On prend chaque triade, on va diviser l'octave en plusieurs parties égales.
Okay.
Donc on prend on divise en deux.
Ouais.
On va avoir donc une triade de Do et une triade de
Sol bémol.
D'accord, ou de Fa dièse.
Ouais.
Ok, on les enchaîne. Ok, on prend. Ok, on divise en trois parties égales.
Et c'est avec ça qu'on élabore des phrases qui sont lyriques et simples. Voilà. L'idée, c'est si on doit jouer au clair de la lune, même sur un accord compliqué, où est-ce qu'on le joue? On va pas le jouer à partir de la fondamentale, forcément, on va
ouais.
jouer ailleurs. Donc avec ce système-là, je leur fais apprendre par cœur des petits presets. Voilà, un accord sus 4, il y a plusieurs façons de l'écrire.
Sus 4,
ouais. Donc en fait, il faut qu'ils sachent les deux ou trois façons de l'écrire de manière à repérer. Tu prends un Do sus 4,
ouais.
c'est Si bémol sur Do.
Mm-hmm.
Voilà.
Sus 4, ici.
Et encore mieux, vraiment juste de l'entendre en fait.
Et là, voilà.
Faire des exercices sur
le côté. C'est ça. C'est-à-dire que là, quand ils chantent la triade, ouais. c'est vrai que tout de suite, avec la fondamentale, on a le son de l'accord en fait.
Ouais.
Tout de suite, à entendre cette triade et se focaliser mécaniquement sur cette triade, ça leur fait entendre un petit peu la chose différemment.
Ouais.
Et c'est pour rentrer dans l'univers de la modalité. Ouais. Quoi.
Tu me les chantes maintenant.
Ah, la triade.
Ah, la triade, ouais.
Ok.
Ba-ba-ba. Yes. Ok. Par rapport à celle-là.
Do-di-da.
Ok, la dièse 5 par rapport à celle-là.
Oui,
yes,
attention.
Okay, yes, la dièse 5 par rapport à celle-là.
Pour essayer d'aller au-delà justement de ce côté exercice-là dans la construction de phrases justement.
Alors en fait là c'est le premier jalon. À partir de la semaine prochaine, en fait, on étudie ce que je fais sur ce cycle-là. C'est que je leur amène des morceaux de compositeurs. En fait, on fait des cycles par compositeur.
D'accord.
Donc je sais pas encore, j'ai des idées, mais bon, par exemple, l'année dernière, j'ai fait tout un cycle sur les morceaux de Tom Harrell, j'ai fait tout mm-hmm. un cycle sur les morceaux de Scofield,
mm-hmm.
j'ai fait tout un cycle sur les morceaux de Dan Grolnick, on a vu ça ensemble. L'année d'avant, j'ai fait sur Kenny Wheeler aussi, enfin voilà. Donc en fait, c'est des musiques qu'ils connaissent pas forcément, qui ont été assez emblématiques pour moi dans ma manière d'apprendre à jouer. C'est vraiment des musiques avec lesquelles j'ai appris à jouer.
Ouais.
Donc je sais quoi leur raconter dessus.
Ouais.
Souvent, c'est des fois des périodes qu'ils ne connaissent pas forcément bien. Ouais. Et puis,
c'est de repiquer, d'imiter un peu le style des...
Non, c'est pas imiter le style. C'est-à-dire
ouais.
que c'est jouer... Là, quand on travaille sur les standards, ils jouent les standards. Là,
ouais.
on travaille sur ces morceaux-là. Donc on décortique un petit peu la grille. D'une manière un peu analytique, c'est plutôt compositionnel en réalité que
d'accord,
stylistique.
Ouais.
Voilà, quand on fait Kenny Wheeler, j'amène les morceaux de Kenny Wheeler, ils les travaillent comme ils doivent travailler les standards, ils les travaillent sérieusement,
ouais.
faut qu'ils soient capables de les jouer, mais c'est surtout pour ouvrir une porte sur l'univers de Kenny Wheeler.
Ouais, d'accord.
Donc on espère tous que ils vont aller acheter les disques, ils vont aller écouter les morceaux. enfin je sais pas, qui vont creuser un petit peu l'univers de ce gars-là, parce que c'est vrai que c'est un univers harmonique en soi, c'est ouais. un univers et puis comme ils sont tous aussi compositeurs et arrangeurs, ça leur offre aussi du vocabulaire d'écriture, de la compréhension, de la composition.
Ouais.
Parce que moi, enfin en tout cas moi je suis, c'est mon école, c'est-à-dire que ce qui fait avancer mon phrasé, c'est aussi la compréhension de ce que j'écris ou de ce que écrivent les autres. Donc ça, ça nourrit aussi mon phrasé. Et leur apprendre comment, effectivement, quand on a un morceau de ce style-là à interpréter, quel mode de pensée il faut avoir, quel mode de développement on peut essayer d'avoir sur telle grille ou tel accord qu'ils n'ont pas vu dans le système tonal. Là, je lui ai demandé sur les 8 qu'on a travaillé, le standard de son choix.
Ouais. D'accord. Voilà,
pour me jouer tout seul. Il n'était pas prévenu. Hein. Il n'était pas prévenu. J'ai dit, bon, vas-y, joue-moi. Voilà. Ma pédagogie, ouais. enfin, une partie de ma pédagogie ouais. réside là-dessus. Du fait qu'il faut qu'ils soient autonomes, je ne parle pas autonome oui, dans le travail, mais c'est autonome avec leur forme, avec ouais. leurs accords,
oui,
et que la rythmique ne soit pas là que pour les accompagner ou pour ouais. leur dire bon, bah là c'est un tapis rouge, là c'est un ouais. tapis vert, attention, on arrive au pont, ah c'est le pont, voilà. Ouais. Il faut pouvoir tenir debout sur un vélo avant de pouvoir aller à droite et à gauche. Déjà, c'est vrai que dans un premier temps, bah, le boulot sur les blues qu'on fait au début d'année, c'est ça, c'est 12 mesures dans le vide chacun, et je veux entendre le blues, donc on essaye d'approcher ça. Il est évident que si je leur fais tous jouer, même à chacun leur niveau, je leur fais jouer un blues et je les accompagne au piano, tout va bien.
Ouais.
C'est à partir du moment où j'arrête de les accompagner que c'est voilà.
J'imagine qu'il faut intérioriser l'harmonie, garder en tête la mélodie aussi, j'imagine,
il y a plein de jouer chemins, avec la mélodie. Il y a plein de chemins, moi ce que je leur dis surtout, c'est effectivement ça passe d'un truc, c'est très instinctif. Moi je... C'est pareil, hein, c'est une école, c'est comme ça que j'ai appris, mais moi je crois beaucoup à l'imprégnation. J'essaye de leur apprendre, comment dire, le langage d'improvisation de jazz. Pour moi, c'est comme quand on apprend une langue, quoi, une langue à parler. C'est-à-dire qu'on essaye de parler déjà, on essaye d'imiter les gens qui parlent, on essaye de converser, et puis à partir de là, on se construit. On se dit, ah bon, maintenant je vais t'expliquer ce que c'est que la grammaire et que l'orthographe, c'est pour moi, c'est une logique... assez immuable dans l'apprentissage musical. Et ce qui est intéressant, c'est que si on rentre dans cette logique-là, si on pense au langage, chaque personne qu'on va croiser dans sa vie va apporter une nouvelle personnalité, un brin, ça peut être vraiment un poil de cils, mais chacun apporte quelque chose de nouveau à sa propre personnalité.
On s'exprime à sa propre manière, au final.
Et on finit par imiter des gens, des fois, même sans le savoir, et on se construit, voilà, on se construit une personnalité. Et c'est vrai que je crois beaucoup à ça pour l'improvisation de jazz. Donc, bon, je les fais jouer au saxophone parce que sinon c'est frustrant, puis c'est agréable bon, voilà, de les entendre jouer ça. Mais pour moi, la démarche la plus importante, c'est au moment où ils le chantent.
Ouais.
Voilà, parce que c'est là que je comprends qu'ils ont intégré au sens instinctif. L'objet du relevé, c'est de pouvoir passer un costume. C'est dire, moi, quand j'étais jeune, c'est ça, je relevais Breaker parce que j'avais l'impression de passer son costume, quoi, passer le masque. Et c'est des phrases qu'on entend, tant qu'on les entend pas, on peut pas les chanter, et si on les chante pas, il va rien en rester. Voilà, donc c'est pour ça que j'aiguille beaucoup là-dessus, et c'est un travail, ils ont tous beaucoup de passion à le faire, et d'ailleurs je trouve c'est marrant parce que souvent il y en a qui arrivent ici en ayant relevé des trucs incroyables, sans être passés finalement par le chant, donc ils n'ont pas une très bonne compréhension des choses compliquées qu'ils jouent, et je remarque qu'ils prennent d'autant plus de plaisir à partir du moment où je leur ai dit fais comme ça, ça va être difficile au début, essaye de les... Et en fait ils prennent vachement plus de plaisir, et je note que là sur la deuxième année, ou même sur la troisième année, ça va nettement plus vite. Et puis il leur reste des choses, quoi, vraiment de ça, et puis ça les oblige à rentrer dans l'univers de ce soliste. Oui, l'année dernière c'était ça, je leur avais demandé de choisir un représentatif de l'école West Coast des années 50.
Ouais.
Donc, alors après ils font leurs recherches, hein. il y en a qui m'ont amené du Art Pepper, c'est vrai que moi je les ai aiguillés sur l'Iconitz parce que bon, c'est pas forcément ce qu'ils connaissent le mieux, et moi c'est des choses qui m'ont percuté. Il y en a un qui m'a relevé du Desmond. C'était l'année d'avant, j'avais fait une grosse demande sur les post-parkérien, donc sur Cannonball Adderley, Phil Woods, enfin voilà. Donc de temps en temps, je demande à ce qu'ils... Mais ils sont toujours moteurs, c'est-à-dire qu'ils choisissent. Je leur dis pas, tu relèves tel solo.
Dans quelle mesure est-ce que vous faites des exercices, j'ai envie de dire, de pure technique du saxophone? Donc travail sur le son, travail à la limite peut-être sur les techniques un peu ésotériques comme le je sais pas, le slap ou des trucs comme ça. Est-ce que des trucs de technique pure du saxophone, ça fait partie du cours aussi?
En fait, à vrai dire, assez rarement.
Ouais.
Ça m'arrive. Hein. En fait, je vais répondre...
Sur le son, par exemple.
Oui. Alors, on fait des choses sur la respiration. Mmh. C'est vrai que, bon, lui, il a un parcours classique très, très solide. En venant du classique, il a une recherche à faire sur le son, sur sa sonorité de jazz. Donc, on travaille là-dessus. Après, c'est des cas particuliers à chaque fois, en fait. Mmh. Hein. C'est ça qui est passionnant, ici. Ici, sur deux élèves qui peuvent être dans le même groupe. Bon, là, il y en a qu'un, Nora Kam, une saxophoniste qui est là, qui n'a pas du tout le même profil, qui sont à peu près d'un niveau, on va dire, de langage équivalent, et qui n'ont pas du tout le même profil technique.
Ouais,
donc, c'est pas facile pour moi, en cours, par exemple, de vraiment se dire, je vais leur parler d'une technique particulière, parce que chacun a besoin. Quelqu'un qui arrive avec une embouchure comme ça, ou une embouchure mal placée, ouais, bon, alors on va pouvoir faire des choses, mais en même temps, je sais au fond de moi-même qu'il va falloir que je travaille avec ça.
Ouais.
Et que la personne se construise avec ça, parce que sinon, je vais la braquer. On a tous eu des phases où on a un prof qui nous dit « Non, ça va pas du tout, faut que tu arrêtes de jouer comme ça, ça c'est terminé, c'est maintenant il faut jouer comme ça. » Et là, on a une période pendant 6 mois ou 1 an, où on a l'impression de plus savoir jouer, et on veut se pendre. Hein.
Ah oui, c'est troublant, oui. On n'a plus de nos repères et puis il faut changer du jour, c'est le jour et la nuit, quoi.
Enfin,
mais c'est troublant, vraiment.
C'est vraiment très très troublant. Alors c'est vrai que dans la musique de jazz, ce qui est chouette, c'est que la personnalité d'un musicien, c'est aussi ce qu'il ne sait pas faire, quelque part. Il se fabrique une personnalité avec son embouchure en biais. Voilà, il y a des exemples dans l'histoire du jazz, il y en a plein comme ça. Et donc, c'est intéressant. En plus, pour moi, c'est super intéressant de pouvoir les faire avancer avec ce problème, qui, à un moment donné, va être corrigé. Ça, c'est quand même, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que à un moment donné, par immersion, pour jouer les uns avec les autres, et puis au niveau practicité, ils jouent dans le big band, ils ont du mal à avoir ce son-là, donc ils vont trouver une autre façon pour avoir plus de son, et forcément, et finalement, les choses avancent en général dans le bon sens.
Ouais.
Il y a toujours un déclic qui vient. Enfin, moi, j'ai confiance en ça.
Au final, c'est en pratiquant qu'on apprend, qu'on explore, quoi. C'est plutôt que si on se met des obstacles techniques comme ça, au final, on n'apprend pas justement à transcender la technique, en quelque sorte.
Bah, en fait, ce que tu dis est très vrai. Ce que je leur dis souvent par rapport à ça, c'est que je leur dis dès le début de l'année, parce que moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Il faut être un peu petit chimiste, en fait. Et en fait, c'est aussi pour leur inculquer qu'on peut passer 2 heures de travail en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire que de la découpe d'octaves. Et puis là-dessus, on y met, je vais faire les arpèges dans ce sens-là, les choses, tiens, je vais empiler des arpèges débiles, tiens, je vais transposer cet exercice-là. Et finalement, c'est sans avoir forcément l'envie que ça serve quand ils vont jouer en concert demain, surtout pas, c'est pas ça l'idée. C'est de s'enrichir, en fait.
Ouais,
c'est de... Encore une fois, ça fait partie de
l'imprégnation.
Voilà. Tout à fait. Ça fait partie de l'imprégnation. C'est-à-dire qu'on joue un truc. Moi, quand je travaille des choses comme ça, c'est pas pour ça que le lendemain, il va m'entendre jouer. D'ailleurs, c'est pas très intéressant quand on joue ça. Mais ça nourrit la tête. Ça fait naître aussi des réflexes, forcément, qu'on n'a pas avant. Là, le fait de travailler, t'as vu, dans la descente, tu vas le faire un peu et puis ça va devenir un réflexe.
Contrebasse et basse électrique depuis 4 ans, mais je suis là depuis très longtemps parce que j'ai été élève ici.
Ah, d'accord.
En 2003, et peu après l'ouverture de l'école.
Ouais.
Et je suis resté proche de l'école parce que rapidement on m'a proposé d'animer des ateliers dans le stage de printemps.
Jean-Michel Charbonnel, professeur de basse et de contrebasse.
Et puis d'être intervenant basse, puisque vous savez, l'école, il y a un prof principal le lundi, puis il y a des intervenants le jeudi. Ouais. Et donc j'ai été intervenant du jeudi assez rapidement, depuis plus de 10 ans. Donc je suis resté toujours très proche de l'école.
Ouais. Ça a changé depuis 2003 ?
Pas les amphibasses, ceux-là, ils sont d'époque. Le portrait de Marc-Michel Le Bévillon, mon prédécesseur et ami.
T'accompagnes Jonathan, tu m'accompagnes, on tourne comme ça. Ok, que le 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On vient d'assister à un cours de basse, donc il y a deux élèves avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Alors, Jonathan Grand.
Ouais.
Donc moi, je suis arrivé l'année dernière, en fait.
D'accord.
Et puis voilà, je suis venu chercher un petit peu, je voulais approfondir au niveau de l'harmonie, au niveau du jazz.
Tu avais une autre formation musicale avant ça, avant de venir
au conservatoire, et très vite, en fait, j'ai commencé à faire un petit peu le métier. Et ouais. Moi, en tant que bassiste, j'accompagne beaucoup de chanteurs dans des styles différents. Ouais. Musique latine, ouais. Funk, rock, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Mais c'est vrai que du coup, en tant que bassiste, on se cache vite derrière ce côté accompagnateur, qui est super.
Quand t'es venu ici, tu connaissais déjà un peu le jazz ou c'était quelque chose de tout nouveau?
Connaître, aimer ou en écouter, oui. Ouais. Mais connaître, après, on connaît jamais rien, en fait, je pense. Donc du coup, apparemment, j'ai dit un truc de bien dans la journée. Voilà. Non, mais du coup, voilà. Moi, c'est un peu ce côté. Il y a un vrai échange au niveau des autres élèves aussi, parce que chacun vient d'univers différent.
Ouais.
Il y a une bonne ambiance et les profs sont ouverts aussi. Bon, ils sont là, je peux pas dire du mal d'eux, mais. Non, vraiment, c'est agréable en fait, parce qu'il y a un côté. Où ils apportent une culture, quelque chose à eux, mais ils sont pas fermés sur d'autres choses en fait.
Ouais.
Donc c'est intéressant. Moi je trouve mon compte, on va dire.
Yes.
Et donc toi, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Moi je suis Teddy Soares.
Ouais.
Donc voilà, j'ai 19 ans et je viens de l'île de la Réunion. Et c'est ma deuxième année aussi.
Deuxième année aussi, d'accord.
Oui. En licence. Et je suis venu ici pour avoir plus de connaissances et approfondir ma culture dans ce milieu-là.
Dans ce que vous abordez cette année, est-ce qu'on construit vraiment sur ce qui est venu avant ?
Ouais, bien sûr. En fait, ça m'apporte, en fait, le CMDL m'apporte tout ce que j'avais, que j'avais pas, en fait, toutes les connaissances. Et c'est grâce à Jean-Michel ou d'autres profs, André, Benoît, où ils arrivent à faire de sorte qu'on... sorte à ce qu'on progresse le plus rapidement possible.
Ça va?
Yes.
Après, il faut l'entendre. Après, il faut l'entendre. Le ting 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 ting. En tant que cycle, quoi.
Ouais.
Donc cycle de 11.
J'ai remarqué que là, c'était principalement un travail de soliste sur lequel, depuis qu'on est arrivé, vous travaillez l'improvisation un peu. Est-ce que du coup, il y a toute une autre partie de la pédagogie qui est beaucoup plus centrée sur l'accompagnement, le travail d'accompagnateur?
Bien sûr, puisque moi, c'est ce qu'on dit en début de quand les jeunes étudiants arrivent. Moi, je leur dis toujours, bon, d'abord, c'est faire le job de bassiste.
Ouais.
D'ailleurs, on s'accompagne entre nous, c'est-à-dire que même s'il y en a un qui est soliste, l'autre accompagne, on tourne comme ça pour... Et puis, notre job, avant tout, c'est de jouer de la basse et donc d'avoir un rôle dans l'orchestre, dans le groupe, qui soit un rôle très, très important et qu'on tienne ce job pour le bien du collectif, pour le bien de la musique, pour le bien du groupe.
Ouais.
Quand on joue de la basse, il faut qu'on pense soliste, mais pas en tant que soliste soi-même, mais qu'on pense à soutenir le soliste.
Ouais.
Si vous voulez, nous, on ne vise pas le maillot jaune. On va porter de l'eau. Alors, de temps en temps, on gagne une étape. Si on fait un beau petit solo, dans le concert, on a une petite victoire d'étape. Mais notre job, ce n'est pas ça. Notre job, c'est d'aller chercher de l'eau pour les autres.
Ouais, d'accord.
Si l'image est...
Elle est super, cette image. Et j'imagine aussi que le rôle de l'accompagnateur, il est, il va être très différent en fonction de, je sais pas, si on joue du blues ou si on joue du bebop tonal ou du modal, truc comme ça. Donc est-ce qu'on explore aussi, est-ce que vous explorez les différentes façons d'accompagner?
Alors on essaye d'aborder plusieurs styles, mais j'avoue qu'on commence vraiment par le jazz. Alors on a à moitié-moitié des contrebassistes et des bassistes électriques dans l'école.
Ouais.
D'ailleurs, Jonathan et Teddy qui sont là ont commencé la contrebasse cette année.
D'accord.
Pour se diversifier, pour comprendre un peu comment ça marche. Mais quel que soit l'instrument, on fait du ternaire.
Ouais.
On fait du jazz ternaire. Mm-hmm. On étudie ça, le placement, l'accompagnement, même si c'est à la basse électrique. Et inversement, à la contre, on fait aussi du binaire.
Ouais.
Et on fait du latin, on fait des choses,
ouais,
comme
d'accord,
ça.
Ouais.
C'est pas une question d'instrument, c'est pas la contrebasse pour faire du jazz ternaire, la basse électrique pour faire, ouais, du funk.
Et d'ailleurs, selon tous, est-ce que c'est important de jouer les deux?
Pour moi, oui.
Ouais.
Pour moi, c'est parce que parfois l'un va mieux dans le style que l'autre. C'est encore une, ouais, fois, c'est pour le bien de la musique. Mmh. Mais encore une fois, je trouve que c'est important de savoir tout faire avec les deux.
Ouais.
Mais c'est pas obligatoire.
Vous avez commencé, ouais, cette année, oui. Ah ouais. Et d'ailleurs, vous avez trouvé ça comment? C'est de la transition?
Dur,
ouais.
Ouais, non, c'est rien, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir au niveau.
Si, c'est les mêmes notes.
Ouais.
C'est tout. C'est, non, après, même le doigté.
Le doigté, l'ergonomie.
Physiquement,
du truc, quoi,
ouais. C'est physique. C'est plus,
ouais, c'est ça, c'est un instrument physique et c'est un instrument qui résiste en fait. C'est pas comme la basse où on n'a qu'à monter un peu le volume et pas besoin d'attaquer beaucoup, alors que la contrebasse, ben, il faut vraiment attaquer.
Ouais,
il faut,
d'accord, ouais.
Faut être vraiment présent sur l'instrument pour avoir un son.
Le bassiste, souvent, son acolyte, c'est le batteur.
Ouais, alors on essaie de faire plusieurs séances dans l'année avec André Charlier, professeur de batterie, et on fait des séances basse-batterie. Pour vraiment soigner ce couple-là, basse-batterie. Ouais. Même si ici, parfois en cours, moi j'ai des enregistrements de batteurs, on ne peut pas toujours avoir un batteur à disposition. On peut travailler ça avec des enregistrements
de batterie
seule. C'est moins vivant, on va dire, mais la batterie enregistrée et le métronome.
Bon, ben, merci beaucoup.
C'était les ateliers du jazz du Centre des musiques Didier Lockwood dans Jazz Story. Série sonore et reportage de Luc Seabright, épisode 4 sur 5. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le cinquième et dernier épisode. Écoutez également en direct du Centre Nino Ferrer de Damary-les-Lys le concert live du Big Band européen du CMDL. C'est le 15 mars sur notre antenne à partir de 20h30. Très bel après-midi sur Art District.